Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La main verte ce matin avec une plante de circonstance le 26 décembre, c'est le hou.
Oui, sauf que le hou dont il est question aujourd'hui n'en est pas un. Et ne ressemble en rien à l'arbre que nous connaissons tous.
Et le hou, il vient d'où alors? C'est le hou de Tasmanie, peut-être.
Et ben oui, le hou de Tasmanie, qui est originaire de l'île du même nom et qui fut découvert en 1937 par Charles Denison King, un chercheur d'étain. Alors, le hou de Tasmanie, c'est un arbuste à petites feuilles vertes et à fleurs roses, mais celle-ci ne donne ni graines ni fruits. La plante se reproduit par multiplication végétative. On explique. Quand l'une de ses branches se détache et tombe sur le sol, elle s'enracine et donne naissance à une nouvelle plante.
C'est une technique de clonage, ça ?
Eh bien oui, oui. Pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, car ils ont constaté, en analysant un bosquet, que tous les arbustes étaient génétiquement absolument semblables.
Combien de temps peut vivre ce hou de Tasmanie ?
Alors, ouvrez grand vos oreilles, Eric, je vais là encore tenter de vous étonner. L'espérance de vie d'un arbuste de Tasmanie est d'environ de 3 siècles. Mais le clone dont il est question existe depuis près de 44 000 ans. J'ai bien dit 44 000 ans. Chercheurs ont localisé la plante mère et la datation au carbone 14 des fragments fossilisés ne laisse aucun doute. Alors, il existe aujourd'hui quelques 500 descendants directs de cette plante incroyable qui a survécu à des froids polaires sous l'ère glaciaire et aux températures caniculaires. Car non content d'être capable de vivre plusieurs siècles et ainsi de suite depuis 44 000 ans, le hou de Tasmanie s'adapte aux changements climatiques, même quand ils sont brutaux.
Vos conseils aux auditrices et auditeurs d'Inter avec Rodolphe pour commencer à propos de son cerisier qui ne produit plus de fruits, plus de feuilles, beaucoup de branches mortes. J'aimerais le sauver, ce cerisier, dit Rodolphe, plutôt que d'aller l'abattre. Comment faire ?
Mais je crois pas qu'on puisse sauver un arbre. Je ne crois pas. J'aimerais être capable de donner une réponse positive. Là, nous avons affaire à un végétal qui est assez âgé. Les cerisiers déjà vieillissent pas très longtemps. Rien à voir avec d'autres arbres qui eux sont capables d'atteindre le millénaire. Les cerisiers même qui atteignent un siècle sont très rares. Alors, notre plante ne produit plus de fruits, c'est normal. Il se préserve. Moins de feuilles, c'est mauvais signe. Il est moins capable de faire de la photosynthèse. Quant au fait que les branches meurent, c'est qu'elles ne sont même plus capables de faire circuler la sève. Alors, il n'y a aucun espoir de le voir s'améliorer. Tous les ans, il va se dégrader davantage. Alors, à défaut de l'abattre et à défaut de le garder, petite suggestion. Et si nous conservions l'arbre tel qu'il est et que nous mettions à sa base une plante grimpante? J'aime assez l'idée. Ça permettrait de garder l'arbre, de ne pas le tuer et de l'utiliser comme support pour voir pousser des clématites, du chèvrefeuille, des rosiers grimpants, etc. Voilà une méthode, je crois, douce.
Comme une statue.
Oui, de conserver un arbre en train de mourir et de l'accompagner jusqu'au dernier souffle.
Daniel, à propos de son tilleul qui a une plaie, il a une plaie ovale de 70 cm. À l'intérieur se trouvaient de nombreuses larves blanches que j'ai éliminées, dit-il. J'ai même bouché le trou avec un mortier de chaux. J'ai chaulé le tronc, vous nous direz ce que ça veut dire. J'ai chaulé le tronc. Y a-t-il un autre moyen d'éliminer ces larves xylophages ?
Oui, le chaulage de tronc, on le voit souvent, c'est ce blanc que l'on met à la base des végétaux et qui a des vertus cicatrisantes. En fait, il faudrait éviter d'y toucher. Il faut connaître l'origine de cette blessure. Soit c'est un choc et la plante a une réaction. Et les petits insectes que l'on a éliminés, à juste titre d'ailleurs, ne sont pas forcément des insectes xylophages. Ce n'est pas parce qu'ils sont ici qu'ils vont se nourrir du bois en décomposition. Ils peuvent profiter simplement des cavités de l'arbre pour se réfugier. Deuxième possibilité, il s'agit peut-être, et c'est plus préoccupant, d'une échaudure. L'échaudure, c'est tout simplement une réaction avec le soleil sur une jeune écorce provoquée généralement en hiver lorsqu'il y a du froid et une réaction de réverbération. J'espère que j'ai été clair.
Ouais.
Les chaudures, c'est toujours destiné dirigé vers l'ouest, vers le soleil couchant. Si cette échaudure est véritablement en forme de cicatrice longitudinale, si elle est dirigée à l'ouest, alors malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est une plante qui n'a pas été cultivée comme il aurait fallu le faire en pépinière et son avenir est limité dans le temps. Quand je dis limité, elle peut cicatriser, mais quand la plaie est aussi importante, ne rêvons pas, la plante n'aura pas un avenir merveilleux.
Émilie, dans son jardin, elle a un magnifique magnolia. Enfin, dans la maison, dit-elle. Je ne sais pas si c'est maison ou jardin. Magnolia, ça peut être dans une maison aussi,
non.
Évidemment.
Non,
c'est dans le jardin.
C'est vraiment à l'extérieur.
C'est vraiment dans le jardin. Sauf que ce magnolia prend un peu trop de place. Est-ce qu'on peut couper les branches les plus basses? Et si oui, quand?
Oui, on peut le faire, bien évidemment. Mais attention, le magnolia est une plante qui pousse lentement. C'est un très bel arbre qui est précieux et qui est délicat. Donc, à couper uniquement les branches qui gênent le plus. Et moi, je dirais au printemps, car cette plante est sensible et c'est lors du redémarrage printanier qu'elle cicatrisera le mieux. Donc, je dirais avril-mai pour être sûr d'éviter de faire des problèmes et certainement pas quand il gèle.
On ne se presse pas pour aller couper les branches de magnolia. On termine avec un dernier conseil.
Alors. Ramène pas ta fraise.
Tiens donc.
Oui, oh non, je me permettrai pas.
Allez-y, on fait plaisir.
Eh oui, c'est le titre d'un ouvrage. Ce sont les expressions et dictons du jardin, les illustrations de Mathilde Magnan, texte de Pascal Aspe, c'est publié chez Terre Vivante. C'est un joli petit bouquin, 14 €, de quoi faire un joli cadeau. Ramène pas ta fraise, plein d'expressions sur le jardin, mais il vaut mieux ne pas ramener sa fraise que
de les manger
ou de les sucrer.
Non, je préfère les sucrer des fraises, évidemment, j'y étais pas. Merci Alain Baraton et au week-end prochain.
À bientôt.